Dans quel monde on vit fête ses 10 ans et si pour célébrer cet anniversaire, vous vous abonnez à notre podcast. Déjà, merci pour ce chouette cadeau. Bonjour à vous, c'est Pascal Claude. Vous le savez sans doute, 2024 est une année bien particulière pour l'équipe de Dans quel monde on vit. Oui, nous vieillissons, nous célébrons nos 10 ans, 10e saison de Dans quel monde on vit. Ah tiens, regardez, voilà qu'un gâteau illuminé entre en studio. Alors, vous êtes prêts? Vous soufflez avec moi? Dans quel monde on vit? C'est parti!
La première.
Dans quel monde on vit?
Dans quel monde on vit?
Pascal Claude.
Dis alors, comment elle s'appelle, celle, ou comment il s'appelle celui que tu as préféré rencontrer au fil des années? Tu sais, celui ou celle avec qui tu t'es dit, il y a vraiment eu rencontre, il s'est passé un truc. Elle ou il n'était pas là juste pour répéter des éléments de langage, faire sa promo, comme on dit. Voilà le type de question qui me laisse souvent sans voix. Déjà, parce qu'il y a eu une ribambelle de belles rencontres et que je ne voudrais oublier personne. Je reste sans voix aussi parce que je suis toujours tourné vers les prochaines émissions et donc les prochaines invitations. Cela dit, c'est une question que j'aimerais vous adresser, vous. Si vous ne deviez retenir que 3 entretiens en 10 saisons dans quel monde on vit, ça serait lesquels? Vous voyez, c'est pas si simple. Pourtant, ça me plairait de savoir, ça nous aiderait à mieux cerner avec l'équipe les profils des invités que vous appréciez et surtout que vous pourriez apprécier. Parce que l'un des enjeux est bien de vous amener à découvrir de nouvelles personnalités aux propos stimulants, déroutants ou réconfortants. 10 saisons, oscillation entre un « oh là là, 10 ans déjà » et un « 10 ans seulement », douce mélancolie, joie des rencontres passées et impatience de la suite à inventer à vos côtés. Allez, en attendant, permettons-nous de trinquer.
Dans quel monde on vit à 10 ans? Ça se fête.
Et d'ici à la fin de la saison, le temps de quelques numéros, nous allons explorer nos archives. Et commençons par le commencement, septembre 2014, le tout premier numéro de Dans quel monde on vit, avec comme parrain l'astrophysicien Hubert Reeves, qui est d'ailleurs récemment décédé. C'était en octobre 2023. Et comme c'est toujours le cas aujourd'hui, je lui avais demandé d'identifier un temps fort de l'actualité. Et je vous rappelle que nous sommes en 2014.
Bon, je dirais que c'est l'information que nous avons eue de la vitesse à laquelle les grands glaciers du pôle sud et du Groenland s'écoulent, se fondent. Ça, c'est vraiment dramatique. C'est au-delà de toutes les prévisions qu'on avait. Vous savez, on fait des scénarios pour l'avenir et on se demande à quelle vitesse la mer va monter, les glaces vont fondre. Et là, nous avons eu cette information qui, maintenant, malheureusement, est plutôt celle qui nous revient le plus souvent. C'est pire que tout ce que vous avez imaginé. Donc, il y a vraiment une urgence très grave à retenir, à diminuer la quantité de gaz carbonique que nous émettons dans l'atmosphère. Ça devient un élément crucial pour l'avenir de la planète.
Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve, titre d'un essai d'Hubert Reeves. Quand nous l'avons reçu pour la première de Dans quel monde on vit, ça faisait tout juste un an que le livre avait été publié, texte dans lequel il nous donnait les dernières nouvelles de notre planète, et elles n'étaient franchement pas bonnes. Un an plus tard, c'est-à-dire donc en septembre 2014, comment est-ce que la situation avait selon lui évolué? Écoutez.
Je dirais que les nouvelles sont un peu meilleures et un peu plus mauvaises. C'est-à-dire que nous avons à la fois deux forces qui s'affrontent et qui prennent de la force. La première, c'est la détérioration. Bien sûr, on continue à émettre du gaz carbonique, 3% par année maintenant, alors qu'on sait qu'il faudrait le diminuer de 60 à 80%. Et on voit les résultats déjà par la fonte des glaces et tout cela. La déforestation qui se poursuit rapidement en Amazonie ou au Congo, en Indonésie. Mais en parallèle, nous voyons une croissance un peu partout dans le monde, malheureusement pas partout, de cette réaction, de cette façon d'essayer de restaurer les choses. Et ce à quoi je m'applique dans ce livre, c'est de dire que ça n'est pas récent. Ça n'est pas une chose nouvelle, c'est quelque chose qui a plus d'un siècle, ce qu'on peut appeler le réveil vert. C'est le moment où les êtres humains, vers les années 1875, le premier groupe d'êtres humains qui se dit... Il faut faire quelque chose, il faut arrêter le saccage. Ça se passe en Californie, ça donne lieu au premier parc animalier comme Yellowstone, Yosemite. Ça se passe en France à partir du 20e siècle, ça se passe un peu partout et ça donne lieu à des quantités de conférences qui donnent des résultats plus ou moins désappointants, mais qui sont réels. Rio, l'an prochain à Paris, une grande conférence sur l'environnement. Je pense que ça, c'est l'état de la situation. Pour moi, c'est que des deux côtés, il y a une confrontation majeure entre deux puissances qui prennent de la puissance. Si je voulais faire un résumé de ce qui se passe, résultat, personne n'en sait rien. Ce que sera cette planète dans 30 ans, personne ne peut le dire. Ça pourrait être bien mieux, ça pourrait être bien pire. Ça dépend des décisions qui sont prises aujourd'hui et on s'aperçoit que malgré tout, il reste une faiblesse dans la motivation. On s'est aperçu récemment qu'aux États-Unis, par exemple, 60% des gens ne croient pas au réchauffement climatique, alors que tous les instituts, toutes les académies maintenant sont d'accord pour dire que ce réchauffement est grave. On se demande comment il se fait qu'il y ait ce retard pour mettre en marche les éléments qu'il faut pour que l'avenir soit vivable pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc pour moi, le résumé de la situation, c'est ça. Ça empire des deux côtés et ça prend de la force aussi des deux côtés.
Ce réveil vert dont vous nous parliez, est-ce qu'il est, Hubert Reeves, suffisamment rapide, suffisamment massif face aux inquiétudes, aux urgences dont vous nous avez parlé?
C'est toute la question. C'est toute la question à laquelle on aimerait bien pouvoir répondre. On ne peut pas le dire. Il est très difficile, sinon impossible, de prévenir l'avenir. Il y a ce mouvement de restauration. Votre question est très pertinente. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on va arriver à temps? Est-ce qu'on ne sommes pas dans une course qu'on risque de perdre? Personne ne le sait. Moi, je dirais, il faut faire comme si la réponse était oui. C'est-à-dire que quand on pense que c'est foutu, c'est foutu. C'est quand on dit non, je ne baisse pas les bras, je continue à faire ce que je pense qu'il faut faire, quoi qu'il arrive. Ça pourra donner rien, ça pourrait donner quelque chose.
On va essayer d'être concret dans ce dernier livre. Vous dénoncez la grande crise écologique. Quelles sont aujourd'hui les priorités pour faire face à cette grande crise écologique? Quels sont les principaux défis?
Le principal, c'est d'arrêter le réchauffement climatique. On s'aperçoit maintenant qu'on va réchauffer cette planète d'au moins 2 degrés, peut-être 3 ou 4. Et on sait déjà que les résultats de ce réchauffement sont vraiment invivables. C'est une augmentation des tempêtes, des froids, des canicules, de tout. C'est une déstabilisation du climat qui va rendre la vie de nos enfants extrêmement difficile. Et non pas dans des millions d'années. En astronomie, quand on dit à l'avenir, on dit dans quelques millions d'années. Là, on dit dans quelques décennies. C'est au niveau des décennies. L'année 2050 est déjà inquiétante et l'année 2100 encore plus inquiétante. Donc, il y a de quoi se motiver, se mobiliser. Rien n'est foutu, encore une fois, mais il faudra certainement prendre des décisions qui vont coûter cher. Et ça, c'est tout le problème. Parce que notre démocratie, nous sommes tous démocrates, mais nous voyons bien qu'elle a un défaut, c'est qu'elle n'est pas capable de penser à long terme. À quoi pensent les politiques aux prochaines élections? Est-ce qu'ils sont prêts à prendre des décisions coûteuses et donc impopulaires au risque de se faire battre aux prochaines élections? C'est là que je pense qu'est un des éléments importants. Bon, ça se continue avec la déforestation, avec l'acidification des océans qui se poursuit. Un peu partout où que vous regardiez, vous voyez des éléments inquiétants. Ça, il faut bien, encore une fois, regarder les choses en face.
Mais vous l'avez dit, tout n'est pas foutu. Alors, il y a quelques jours, vous déclariez dans un article en parlant des hommes, je vous cite: nous avons la plus mauvaise note au palmarès de la faculté de vivre en harmonie avec la nature. Alors ce n'est pas la première fois que vous nous le faites remarquer, Hubert Reeves, mais comment l'expliquez-vous? Pour quelles raisons avons-nous un si mauvais bulletin en la matière?
Ça, c'est encore une question à laquelle on aimerait trouver des réponses. On peut constater effectivement que c'est toujours le profit qui l'emporte, par exemple, sur la sécurité. L'histoire de Fukushima, c'est bien cela. C'est que pour du profit, on s'est pas occupé du fait que le réacteur est installé sur un des terrains les plus actifs de la planète et qu'on l'avait protégé avec un petit muret de 6 mètres de haut, alors qu'on sait que les grandes vagues des tsunamis montent jusqu'à 20 mètres. Vous voyez, on voit un peu partout les incohérences comme ça, dont l'explication est simple, c'est monnaie. C'est, on veut faire du profit. Et tant qu'on n'aura pas appris qu'il faut développer des valeurs qui sont au-delà du simple profit, on sera dans cette difficulté. Pourquoi les humains sont comme ça plutôt qu'autrement, j'en sais rien. Mais on le constate tristement.
Et qu'est-ce que ça peut nous apporter de vivre davantage en harmonie avec la nature ?
Ben, ça va apporter justement qu'on va arrêter de toutes ces menaces qui nous dépassent. On va arrêter cette émission de gaz carbonique qui n'a comme résultat que de faire du profit. On va arrêter tout ce qu'on fait comme qui détériore la nature. C'est le cas, je prends le cas par exemple des tortues. J'aime bien prendre le cas des tortues. Les tortues, ils vivent en harmonie avec la nature depuis 300 millions d'années. Ils ont passé au travers de toutes les crises écologiques, climatologiques qui se sont passées. Nous, nous avons à peine moins de 10 millions d'années et nous sommes déjà dans le collimateur avec la sixième extinction et tout cela. C'est notre façon d'utiliser notre très grande intelligence. Nous sommes très intelligents, très astucieux, nous faisons des instruments extrêmement puissants, nous pouvons déforester à des rythmes fantastiques. Nous ne contrôlons pas tout cela et c'est cela qui est le danger. Donc c'est une réévaluation de l'utilisation de notre gros cerveau pour arriver à pouvoir coexister et vivre en harmonie avec la nature.
Ça signifie, Hubert Reeves, que l'intelligence est en quelque sorte un cadeau empoisonné pour les êtres humains ?
Ben, c'est la question qui se pose. Si, par exemple, pendant la guerre nucléaire, pendant la guerre froide, il y avait eu une guerre nucléaire, on est passé tout près, comme vous le savez. Maintenant, les révélations du Kremlin nous apprennent des choses qui nous font froid dans le dos. Si nous avions eu cette guerre nucléaire, eh bien, des visiteurs de l'espace qui seraient venus sur la Terre auraient dit, ben, ces pauvres gens, l'intelligence qu'ils ont eue, ils n'ont pas été capables d'y survivre, ils n'ont pas été capables de ne pas se détruire eux-mêmes. Donc, on pourrait dire, à ce moment-là, l'intelligence est un cadeau empoisonné, il vaudrait mieux être moins intelligent, comme les tortues, qui, eux, arrivent à vivre en harmonie avec la nature. C'est à nous de prouver que l'intelligence n'est pas un cadeau empoisonné, qu'elle peut nous servir à vivre en harmonie avec la nature sur une planète qui continue à être verte.
Question à l'astrophysicien à présent. Vous avez dit dans une interview il y a quelques années, les étoiles vont sauver le monde. Voilà qui mérite bien quelques explications, Hubert Reeves.
Alors, je me souviens pas d'avoir dit ça, c'est possible, bien sûr. Je crois que le rôle des étoiles, maintenant, la science nous le dit, c'est de faire des atomes. Les atomes dont nous sommes fabriqués, le carbone, l'azote, l'oxygène, ont été faits par des étoiles qui ont vécu avant la naissance du Soleil, qui sont mortes et qui ont dispersé leur matériel dans l'espace. Donc nous avons ce lien aujourd'hui, les étoiles sont dans le passé. On parlait souvent des étoiles dans le futur, l'astrologie et tout ça, on y croit ou on n'y croit pas. Ce que nous avons découvert, c'est que par contre, dans le passé, elles ont joué un rôle fondamental. Sans les étoiles, il n'y aurait pas d'atomes, sans atomes, on ne serait pas là.
Et qu'est-ce que vous observez aujourd'hui, en ce moment, en tournant les yeux vers le ciel ?
Alors, un des sujets les plus actifs, ce sont ce qu'on appelle les exoplanètes, c'est-à-dire ces planètes qui sont autour d'autres étoiles que le Soleil, qui font des systèmes planétaires. On en a découvert maintenant plus de 2000. Et ces planètes, on commence à étudier leur atmosphère et on est très excité à l'idée qu'on pourrait peut-être trouver des atomes d'oxygène, une atmosphère d'oxygène, comme celui que nous avons sur la Terre. Eh bien, cela serait une bonne indication, suggestion qu'il y a de la vie sur ces étoiles. Peut-être pas de la vie, peut-être pas des éléphants ou des girafes, mais peut-être plutôt du plancton qui vit comme sur la Terre dans les océans. Et ça, cette idée, sommes-nous seuls dans l'univers, c'est une vieille idée qui déjà les Romains en discutaient et qui est derrière l'interrogation de tout le monde. Tout le monde est fasciné par cette idée. Est-il possible que nous soyons la seule vie intelligente dans l'univers? Jusqu'ici, on n'a pas de réponse claire venant de la science à ces questions. Mais peut-être sommes-nous à veille d'avoir des débuts de réponse. Et ça, c'est ce qui excite beaucoup toute la communauté scientifique.
Est-ce qu'étudier les étoiles, le cosmos, ça permet de mieux cerner les enjeux de nos sociétés ? Est-ce que ça permet de mieux observer l'humanité, Hubert Reeves ?
Eh bien, je fais des conférences que j'appelle astronomie et écologie. Quel rapport entre l'astronomie et l'écologie ? Le rapport, c'est le rapport du passé et du futur. l'astronomie, les sciences en général, nous apprennent comment nous en sommes venus à exister, à être des êtres humains. L'écologie nous dit comment y rester d'une façon convenable. Donc les étoiles, ça nous parle du passé, et l'écologie du futur, ce que nous voulons en faire, ce que nous pouvons en faire. Donc c'est en ce sens-là que je vois le rapport entre les deux.
Hubert Reeves, dans Quel monde on vit, c'est aussi l'espace où l'on pense le monde de demain. Est-ce que nous allons être contraints d'inventer, selon vous, un nouveau monde avec d'autres logiques, d'autres règles, d'autres priorités ?
Je pense que nous sommes contraints d'inventer un monde vivable, un monde dans lequel nous pouvons continuer à exister, à respirer, à manger, à ne pas être empoisonnés, c'est-à-dire à réussir à résoudre tous les problèmes qui se posent avec la crise écologique contemporaine, c'est-à-dire d'éviter ou d'arrêter ce qu'on appelle la sixième extinction, qui fait qu'on prévoit pour l'an 2100 que la moitié des variétés animales auront disparu. Ça, je crois que c'est ce qu'il y a premier. Est-ce qu'il y aura une nouvelle logique? Est-ce qu'il y aura autre chose? Vous savez, personne, rarement les gens prévoient ce qui se passe. Quand vous regardez ce qu'on disait en 1900 pour ce qui allait exister maintenant, même en 1980, quand les directeurs d'IBM auxquels on proposait les ordinateurs portables disaient non, ça n'a pas d'avenir. Vous voyez comment, jusqu'à quel point nous sommes toujours aveugles sur ce qui va arriver. Les choses qui arrivent sont toujours très surprenantes par rapport à tout ce qu'on a prévu. Donc, en ce sens, je pense que c'est difficile de dire cela. Il y a cette avenir, encore une fois, qui est ouvert, mais nous avons des nuages noirs qui sont devant nous si nous voulons que nos enfants et nos petits-enfants aient une vie convenable comme la nôtre.
On a beaucoup parlé avec vous de l'intelligence de l'être humain qui n'est pas toujours bien utilisée. Est-ce que vous pensez que l'on peut changer l'homme ? Est-ce que l'on peut changer l'être humain ?
Je pense que c'est une question un peu vague, pour vous dire la vérité. Certainement qu'il va changer. Dans quel sens? Est-ce que c'est nous qui allons le changer? Je ne sais pas. Il est certain qu'avec toutes les techniques qui se développent aujourd'hui de biotechnique, il y aura des changements. Mais là aussi, je ne peux pas répondre. Encore une fois, je vous dis, je pense que l'avenir est imprévisible.
Dernière question, Hubert Reeves, dans un récent article, vous évoquez ces petits bonheurs qui font une grande vie. Alors, on va tous vous écouter avec attention. Quelle est la clé pour bien vivre aujourd'hui, selon vous, sur notre planète Terre ?
Là, vous me demandez vraiment beaucoup. Bon, je dirais, en peu de mots, je dirais c'est d'embellir la réalité. Voilà ma conclusion. Nous vivons tous dans des cadres qui sont plus ou moins étendus, dans lesquels nos actions ont une influence. Ces actions peuvent avoir une influence qui est très négative, c'est le cas des empereurs et des dictateurs, mais nos actions peuvent également aider les gens à mieux vivre. Nous avons tous une vie difficile et je crois que prendre en charge notre entourage et essayer de faire que ce qu'il y a dans notre entourage se porte mieux, va mieux, et là chacun peut répondre à sa façon à partir de ce qu'il sait de son propre entourage. Pour moi, ça c'est un début, je dirais, les plus importants de l'existence. Si on se demande est-ce que la vie a un sens, bon, je pense que la question, il n'y a pas de réponses qui sont écrites dans le ciel. La réponse, c'est celle que nous faisons nous-mêmes, et pour moi, celle que je fais, c'est d'embellir la réalité.
Hubert Reeves, en septembre 2014, pour la première de Dans quel monde on vit.
Dans quel monde on vit, fête sa saison 10.
Et pour fêter nos 10 ans, des personnalités invitées au fil des années nous ont adressé des messages vocaux.
Bonjour, c'est Vinciane Després. Alors, mon premier souvenir de Dans quel monde on vit, c'est d'abord de l'avoir écouté, cette émission, et de l'avoir écouté avec passion et d'avoir souhaité être un jour invitée. Et puis je l'ai été, et la chose qui m'a le plus surprise, c'est que les questions de Pascal Claude m'amenaient toujours ailleurs que là où j'avais envie d'aller, et c'était formidable. Alors, très longue et très heureuse vie à Dans quel monde on vit.
Bonjour, c'est Dominica, chanteur, musicien. Alors c'est toujours un plaisir de participer à une émission aussi brillante que Dans quel monde on vit. Tellement brillante que la dernière fois que j'y suis allé, il y avait comme autre invité un écrivain très talentueux, Yannick Haenel, très talentueux et très éloquent. J'avais un peu l'impression de faire pâle figure à côté de lui au niveau du discours. C'est clair que c'est une émission où il vaut mieux ne pas avoir les neurones en berne. Voilà, en tout cas, tous mes vœux de bonheur. Bravo pour tout ce que vous avez déjà accompli. Et puis, joyeux anniversaire.
La première.
Dans quel monde on vit ? Pascal Claude.
J'espère que vous êtes en forme. Nous fouillons dans les archives de Dans quel monde on vit cette semaine et nous percevons les résonances entre hier et aujourd'hui. Dans quel monde on vit qui célèbre sa saison 10. Et en 2015, j'ai eu la chance de dialoguer avec le grand sociologue français Alain Touraine, décédé en juin 2023. Quand je l'ai reçu, son livre « Nous, sujets humains » venait d'être publié. Il y disait que nous entrons dans une société nouvelle, mais il ne voulait pas la qualifier de société post-industrielle. Pourtant, l'expression « société post-industrielle », il fut l'un des premiers à l'avoir utilisée. Elle est même devenue le titre de l'un de ses livres en 1969. Mais donc, en 2015, il estime que ce qui définit le mieux le monde contemporain, c'est la toute-puissance des dirigeants, le pouvoir total.
Vous avez tout à fait raison. Mais premièrement, vous reconnaîtrez avec moi que définir une société qu'elle vient après une autre, c'est pas très génial. Si je dis que vous êtes le fils de votre père, c'est une information très respectable et intéressante, mais j'aimerais en savoir un peu plus sur vous, pas seulement sur vos ancêtres. Bon, ben c'est la même chose. Mais en effet, premièrement, il vaut, au lieu de dire post-industriel, il vaudrait mieux être positif et dire, comme nous le faisons tous, c'est une société de l'information et de la communication, mais je pense en effet... Et là, je me permets d'insister qu'il est tout à fait essentiel de comprendre, et je pense vous l'expliquer très brièvement et facilement en 30 secondes, il est tout à fait essentiel d'avoir une vision plus globale. Mais pour bien montrer que je n'ai rien du tout contre une définition en termes technologiques, je vais en partir et dire ceci. Et c'est là où j'ai même pas besoin de 30 secondes pour y arriver. Quand vous définissez une société par l'importance des activités d'information et de communication, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qui est en jeu, ce n'est plus la possession de biens matériels. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est en jeu, le pouvoir, la richesse, l'influence, tout ce que vous voulez, ce qui définit, ce qui excite notre société, c'est de transporter et de fabriquer de la subjectivité. Et non pas seulement des biens objectifs, du charbon, des bagnoles, etc. Et donc, aujourd'hui, la grande affaire, c'est que avoir du pouvoir, commander dans cette société, ça veut dire avoir la capacité de fabriquer des représentations, des opinions, des attitudes, des choix, des modes de consommation et des modes de vie. Autrement dit, aujourd'hui, ce qui définit le plus profondément, le plus dramatiquement souvent, une société de l'information et de la communication, c'est le pouvoir consiste à dominer, bien sûr, le monde matériel. Ils n'ont pas renoncé aux finances et aux bagnoles, etc. Mais surtout, à dominer les subjectivités. Et par conséquent, je parle de pouvoir total. Et quand je dis de pouvoir total, vous voyez bien qu'il y a un mot que j'ai dans le fond de la tête et que je ne veux pas prononcer, qui est le mot de totalitaire.
Alain Touraine, où pouvons-nous les rencontrer, ces pouvoirs totaux ? Partout ?
Non. Et votre question est profondément à la fois juste et embarrassante. Je pense qu'il y a fort peu de lieux, et qui ne sont pas forcément les lieux apparemment les plus visibles dans le monde, où il y a des centres de pouvoir total, voulant dire ici, dans la langue quotidienne, des pouvoirs qui s'exercent à la fois sur l'économie, sur la politique et sur la culture. C'est ça que ça veut dire. Je vais les appeler de leur vrai nom. C'est des empires. Nous sommes en train de vivre à nouveau le monde des empires. Alors, en face d'un pouvoir total, il faut un mouvement total. Je m'explique. Dans les sociétés pré-industrielles, on s'est battu contre les rois ou contre les républiques d'ailleurs, pour avoir des droits politiques. Ensuite, à l'époque industrielle, on a étendu, et c'est les Anglais qui ont été les premiers, à dire ce qu'on a fait en donnant des droits politiques, il faut l'étendre au monde du travail, des droits sociaux. Bon, maintenant, tout ça c'est insuffisant. Et alors là, les choses deviennent un peu plus compliquées, c'est-à-dire que vous avez un pouvoir total, et vous allez le combattre, et vous risquez de tomber dans la soupe, c'est-à-dire que vous risquez, vous aussi, de faire une sorte de totalitaire d'en bas, c'est-à-dire du néo-communautarisme, de la politique identitaire, ce que vous voyez. Ce que vous voyez, et je vous le dis tout de suite, pas seulement dans le Moyen-Orient, les pays d'Europe ex-soviétique, les pays d'Europe de l'Est, se sont opposés dans des conditions très choquantes à l'arrivée des réfugiés de Syrie. Eh bien, ces gens-là, ils faisaient exactement ce que je suis en train de vous décrire. Ces gens-là, ils avaient une conception qui vient de l'Allemagne, la conception culturelle de la nation. La conception française de la nation, c'est une conception politique et universaliste. La citoyenneté, c'est ça que ça veut dire. Chez ces gens-là, ça voulait dire la défense d'une culture, parce qu'on avait été dominé par les Russes, par les Turcs, par les Autrichiens. Et donc, vous avez aujourd'hui ces gens-là qui veulent avant tout défendre, je pense aux Hongrois en particulier, qui ont perdu une grande partie de leur population et de leur territoire. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est avant tout défendre une civilisation, une société magyare, hongroise, avec leur langue, et ils ont terriblement peur. Ils s'appellent, comme certains en Occident voulaient le faire, une société chrétienne. Ils ne sont pas plus que d'autres. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens en Hongrie. Alors, j'insiste sur... Je viens de vous donner la mauvaise version, la version négative, parce que je garde quand même pour la fin, si je peux dire, la fin de ma phrase, en tout cas, ce qui est le plus positif. Alors, je reprends le début de ma phrase que j'avais fait dévier vers le bas. Je vais maintenant la faire monter vers le haut. C'est-à-dire, nous ne pouvons opposer à cette vision impériale, globale, totale, écrasante. Nous ne pouvons opposer qu'une vision globale, totale, mais de nous-mêmes en tant que créateurs. Je veux dire, quand je dis créateurs, je veux dire que nous, et quand je dis nous-mêmes, je veux dire nous tous les êtres.
Chacun d'entre nous.
Je veux dire chacun d'entre nous et pas seulement les meilleurs ingénieurs américains, allemands ou sud-africains. Non. Je veux dire chacun d'entre nous. C'est ça l'universalisme. Mais ça, la modernité, pour nous, Européens, c'est l'universalisme. La citoyenneté, tous les citoyens doivent avoir les mêmes droits. C'est ce qu'on appelle l'égalité. Ça, nous nous sommes battus pour ça et avec succès pendant 200 ou 300 ans. Les droits des travailleurs, le mouvement ouvrier s'est défini par son internationalisme, donc par son universalisme. Et donc, ce que je dis moi, c'est que des mouvements sociaux, comme était le mouvement ouvrier, ou des mouvements politiques, comme ont été les mouvements révolutionnaires ou républicains des 18e et 19e siècles, les 1848 encore en Europe centrale, etc., sont remplacés aujourd'hui par des mouvements qui ne sont plus sociaux, qui ne sont plus proprement politiques ou nationaux, qui sont d'une part, et c'est le cœur de mon livre, des mouvements avant tout éthiques. Je ne dis pas moraux, parce que quand on dit morale, on veut toujours dire respecter les règles. Non, non, éthique, c'est quelque chose qui est au-dessus des
lois. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un mouvement éthique?
Alors je dirais que des mouvements éthiques, vous en avez aujourd'hui plein la terre, plein la terre. Je dirais d'abord, si je vous dis Hitler et que vous pensez à ceux qui ont résisté à Hitler, c'est pas pour des intérêts économiques. Ça peut être pour des intérêts nationaux, mais c'est quand même parce que quand on vous dit Hitler, quand on vous dit la Shoah, quand on vous dit Auschwitz, vous avez une réaction éthique, une réaction morale. C'est inhumain, c'est inacceptable. Nulle part au monde, ça ne peut exister, ça ne doit pouvoir exister. Donc, vous faites appel ici aux droits de l'homme. Et quand je dis de l'homme, aux droits humains de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les enfants. C'est ça que ça veut dire. Et aujourd'hui, nous avons énormément de mouvements de défense des minorités. Nous sommes en train de, dans les pays occidentaux, ça se passe assez rapidement et je dirais au total plutôt bien, de reconnaître le mariage et même le droit d'adoption des homosexuels. Bon, ça c'est pas national, c'est pas économique, c'est pas politique, ça s'adresse à tout le monde. Et quand je dis les droits des homosexuels, je vous demande pas si ça s'adresse aux Slovaques ou aux Portugais. C'est tous les homosexuels, hommes, femmes, c'est même, vous vous rendez bien compte probablement, sûrement, que quand vous reconnaissez les droits des homosexuels, vous pouvez peut-être vous attendre à ce que, assez rapidement, on vous demande de voter sur les droits de gens autres, par exemple des transgenres. Je ne vois pas pourquoi, si vous avez reconnu, pour des raisons universalistes, le droit des homosexuels, je ne vois pas au nom de quoi, je ne prends pas parti, moi, mais je dis, je ne vois, enfin, je suis pour, mais ce n'est pas le problème, ce n'est pas mes opinions qui comptent. Je dis, je ne vois pas au nom de quoi vous pouvez refuser des droits que vous avez acceptés pour les homosexuels. Bon, et on peut aller d'ailleurs très loin et se poser des questions souvent très embarrassantes. Par exemple, en Europe, nous disons que, en tout état de cause, nous voulons reconnaître des droits aux gens qui sont musulmans, mais pas d'hommes ayant quatre femmes, alors que les femmes n'ont pas le droit d'avoir deux hommes. Vous comprenez ? Bon. Mais jusqu'où ça ira ? J'en sais rien. Mais c'est des problèmes qui sont posés. Les Européens céderont ou ne céderont pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas dire que, a priori, au scandale, je ne veux pas entendre parler de ça. A priori, peut-être vos arrière-grands-parents ne voulaient pas entendre parler des droits des homosexuels, comme d'autres ne voulaient pas entendre parler des droits des juifs, comme d'autres ne voulaient pas entendre parler des droits des protestants ou ailleurs des droits des catholiques, etc. N'empêche que. Bon, la démocratie, ça voulait dire le droit de la majorité à gouverner. Aujourd'hui, personne ne dirait ça. Aujourd'hui, vous diriez, c'est le droit de la majorité à gouverner dans le respect des droits des minorités.
Ça veut dire que le bien commun, l'intérêt général, ça ne compte plus, Alain Touraine ?
Je vous répondrai sûrement pas ça, mais je vous répondrai que notre conception du bien commun n'est pas du tout, aujourd'hui, de rejeter tout ce qui ne correspond pas aux pratiques, aux intérêts, aux croyances d'une majorité, qui d'ailleurs n'est pas forcément la même dans tous les domaines. Je dirais que ce que nous pouvons appeler le bien commun, c'est de pousser le plus loin possible, jusqu'aux limites les plus acceptables possibles, la tolérance et la diversité. Alors, là, je me permets d'ajouter une phrase à la question, pour répondre plus complètement à la question que vous venez de poser, parce qu'on touche là des choses qui nous concernent au plus près aujourd'hui, qui est que nous nous demandons comment nous pouvons faire reconnaître des droits à des gens qui refusent aux autres des droits. C'est-à-dire, si vous avez affaire aux gens de Daesh, quand ils viennent vous rendre visite, c'est pas pour vous souhaiter le bonjour ou vous souhaiter le Noël. C'est pour vous couper la gorge. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Vieux problème. Est-ce qu'on peut appliquer la tolérance aux gens qui ne sont pas tolérants ? Beaucoup de gens vous diront, à la guerre, on ne répond que par la guerre. D'autres vous diront, à la révolution, on ne répond que par la révolution. Je ne pense pas ça du tout, et je maintiens, mais je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais je maintiens avec beaucoup de fermeté que nous devons passer par les méthodes institutionnelles, les garanties institutionnelles. Je ne suis pas du tout pour dire montons aux extrêmes et on règle tout par la guerre. Je ne connais pas un dirigeant occidental qui pense que la guerre qu'on fait sans la faire tout en la faisant puisse amener une solution. Et je pense que personne ne pense, n'est assez idiot pour penser que le souci de M. Poutine, c'est la paix mondiale.
Voilà des propos qui, près de 10 ans plus tard, ont une tonalité bien singulière.
En 2024, dans quel monde on vit ? Saison 10.
Le sociologue français Alain Touraine, en 2015, à l'occasion de la sortie de son livre « Nous, sujets humains », il y disait espérer une implication plus forte de toutes et tous dans l'organisation de la vie sociale. Alors question, qu'est-ce qui va nous pousser, nous citoyens ou sujets humains, à davantage nous impliquer, à nous mettre en mouvement, à reprendre la parole ? D'où peut venir le réveil ? Écoutez.
Oui, vous avez profondément raison. Premièrement, la première phrase que vous avez prononcée, il faut bien voir ce qu'elle veut dire concrètement. Elle veut dire, et je pense qu'il y aura un accord vraiment général sur cette proposition, que ça ne veut pas dire grand-chose d'être une démocratie si ça consiste à aller voter, on ne sait pas pour qui, tous les 4, 5 ou 7 ans. Aujourd'hui, je trouve que nous ne pouvons pas accepter que l'école, que l'hôpital, que la ville, que la maison de retraite, que tout ce que vous voudrez, que les prisons ne soient pas gérées d'une manière que nous ayons le droit d'appeler démocratique. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des conseils de laboratoire dans les prisons où on discute de détails d'organisation. Je veux dire par là, et j'ai pas encore, je crois, prononcé ce mot, le mot qui m'est le plus cher, et parce que c'est le mot que, je m'en aperçois, tout le monde emploie, et je vous dirais en particulier qui, c'est le mot de dignité. Mmh. Aujourd'hui, le droit fondamental, c'est le droit d'être, si vous vous baladez dans l'Himalaya ou dans la Cordillère des Andes ou au centre d'Afrique, qu'est-ce que vous entendez au bord de la route ? Vous entendez des gens qui disent « je veux qu'on respecte ma dignité, je veux qu'on me traite comme un être humain ». Je ne veux pas être humilié. Je ne veux pas être traité comme une plante ou un animal, encore que les animaux devraient être bien traités. Bon, je veux dire par là, et le type dont je note avec beaucoup d'intérêt qu'il emploie tout le temps le mot dignité, tous les 4 mots dans ses discours, c'est l'homme qui est probablement aujourd'hui le plus populaire au monde, c'est-à-dire le pape. Le pape François... Mmh. qui parle un langage qui n'a pratiquement rien de commun avec son prédécesseur, c'est de parler de dignité humaine. Et il emploie le mot « dignité ». Ce qui nous intéresse passionnément, c'est de faire que les êtres humains soient traités dans toutes les circonstances, que ce soit dans un désert pour avoir de quoi manger et de quoi boire, que ce soit à l'école, à l'hôpital, dans une prison ou dans n'importe où, que soit traité avec cette chose qui est, comment dirais-je, la synthèse des droits politiques, des droits sociaux et des droits culturels, qui est la dignité, être traité comme un être humain, puisque nous vivons dans un monde où nous avons démontré que les êtres humains sont capables de tout créer, et même ils nous en ont convaincu, ces salauds, en démontrant qu'ils étaient capables de tout détruire.
Mais pourquoi est-ce que, du jour au lendemain, nous allons toutes et tous nous mettre en marche, nous mettre en mouvement pour défendre cette dignité, Alain Touraine ?
Ne vous inquiétez pas sur ce danger qu'il y aurait de voir le monde entier se mettre en mouvement, moi je serais ravi.
C'est votre vœu le plus cher, vous en parlez à la fin de votre essai.
Oui, mais absolument. Vous savez, ça c'est la vieille histoire, c'est Machado, le poète espagnol, qui disait le chemin, c'est pas le chemin qui compte, c'est el andar, le mouvement, le cheminement, le mouvement, le but du mouvement, c'est le mouvement, c'est pas l'auberge ou le bistrot qui est au bout de la... ou la salle de cinéma qui est au bout du chemin. Bon, je dirais qu'aujourd'hui, on ne bouge pas sinon forcé. forcé par la faim, forcé par l'invasion, forcé par la persécution, etc. Et nous sommes dans une situation dont j'espère bien qu'elle ne durera pas longtemps, partout dans le monde, et c'est bien ce qui se passe. Nous voyons, nous en Europe, où nous avons un tout petit problème à résoudre, de trouver à loger quelques centaines de milliers de gens qui viennent de Syrie ou d'ailleurs.
Mais justement, qu'est-ce qu'elle dit, cette crise des réfugiés, sur les sujets humains ?
Elle dit beaucoup, et elle dit la chose la plus juste qui soit, c'est-à-dire, et la moins enthousiasmante qui soit, c'est quand on est devant un problème humain, grave, fondamental, de respect des droits et de la dignité humaine, eh bien, vous avez des gens, comme vous en avez partout, qui, voyant des réfugiés, sortent de chez eux, leur apportent une couverture, de la nourriture, de l'argent, une aide politique ou administrative. Et puis, vous en avez beaucoup qui disent « foutez-moi le camp », vous êtes sale, vous parlez une langue impossible, vous avez des mœurs barbares, je ne veux pas vous entendre parler, je vous construis un mur. » Et nous savons par expérience que les gens qui ont supporté les horreurs les plus extrêmes, qui ont été massacrés en masse, dont l'existence même a été niée, sont aussi les gens ou leurs descendants immédiats qui sont capables de construire des murs pour empêcher des Arabes de se déplacer sur le territoire palestinien. Et nous voyons que les pays de l'Est de l'Europe, moi j'ai eu des liens très forts, je les ai toujours, avec la Pologne. Mais enfin, on ne peut pas quand même penser à la Pologne sans penser d'une part à ce qu'elle a subi et d'autre part à l'aide qu'elle a reçue. Et que les Européens de l'Ouest ont, je crois, montré aux Hongrois, aux Tchèques, aux Polonais surtout, leur désir de sauver leur dignité et de les traiter comme des frères. Et ça me fait mal au cœur de voir les réactions. Cela dit, j'ai envie de dire, dans une société de communication, puisque nous sommes dans une société de communication, c'est pas seulement où il y a des appareils de communication, mais où il y a une voix qui dise « qu'est-ce que je peux faire ? Viens chez moi, je vais chez toi ». C'est-à-dire que nous nous comportions comme des gens qui sommes capables pas seulement de faire des machines de paix ou de guerre, mais aussi de communiquer, d'informer, d'écouter, de parler. Parlons-nous en tant qu'êtres humains et donc d'une certaine manière, avec toutes nos différences, mais en tant que frères humains. Et que nous soyons religieux ou laïcs, c'est un truc qui n'a vraiment qu'une importance assez limitée.
Une dernière question, Alain Touraine. À un moment dans votre livre, vous abordez en quelques lignes la question du bonheur, en rappelant que le bonheur, ce n'est pas selon vous, raboter la réalité ou s'éloigner de la vie telle qu'elle est. À 90 ans, quelle est, Alain Touraine, votre définition du bonheur ?
Alors d'abord, je vais vous dire que je suis en effet très chagriné. D'ailleurs, surtout en ce qui concerne les femmes, parce que c'était essentiellement un mouvement de femmes. Les femmes se sont battues pendant 100 ans pour avoir accès à la vie publique. On appelle ça mouvement de femmes, féminisme, comme vous voulez. Bon, très bien. Et au total, succès important. Pas suffisant, mais quand même succès important. Et voilà, tout d'un coup, qu'arrivent des gens qui sont souvent des hommes, mais qui s'adressent surtout à des femmes, et qui leur disent « Mais non, laissez donc ce champ public, cette vie sociale. Pensez à vous-même, prenez votre bon temps, pensez à votre bien-être, mettez-vous au coin de votre bon petit feu. » Et tâchez de manger des choses agréables, je veux dire par là, de défendre votre ligne, de veiller à vos vieux jours, etc. Et puis le reste, ce qui se passe dans le reste du monde, vous n'avez qu'à vous en foutre, vous pouvez le regarder 5 minutes à la télévision, pas 10 parce que ça vous empêcherait la digestion. Bon, alors j'ai horreur de ça. cette espèce d'égoïsme, d'égoïsme lamentable des femmes et des hommes, des braves classes moyennes, des braves pays, de la brave Europe, etc. Le monde est plein de causes dramatiques. Nous ne sommes pas des héros et nous n'avons personne à le droit d'exiger des autres qu'ils soient des héros. Et on ne peut même pas l'exiger de soi-même. Mais on peut exiger d'être décent et de respecter la dignité des autres, oui. Et donc, je trouve que ce refus et ce reflux de la vie sociale, même de la vie humanitaire, des initiatives, de la générosité, c'est une chose horrible, cette manière de dépolitiser la vie, de fermer les yeux devant les problèmes les plus dérangeants. Ce sont des choses qui témoignent d'une dégradation, d'un déclin. Il y a des gens qui aiment parler du déclinisme, en particulier en France, mais c'est pas de la production d'aluminium qu'il s'agit. C'est essentiellement d'être capable de nous engager pour défendre le plus possible, le plus honnêtement et dignement possible, la vie et les manières de vivre et les pensées et les croyances de l'ensemble des êtres humains.
Et c'est en s'engageant que nous allons vers le bonheur ?
Non, je pense pas. Je pense que c'est pas de bonheur qu'il s'agit. Nous devons revaloriser les valeurs éthiques dans la mesure où ce sont les plus importantes, parce qu'elles sont universalistes, parce qu'elles défendent, protègent, engagent à se battre et à se libérer tous les êtres humains, quels qu'ils soient. Et donc, je trouve que les Européens, aujourd'hui, ils sont un peu sous-employés, vous ne trouvez pas ? Je veux dire, ils pourraient faire un peu plus dans le monde. Je pense que le moment où on pourra se reposer en disant « il n'y a plus trop de scandales dans le monde », ce moment, on va tourner souvent autour du soleil avant d'y arriver. Bon, maintenant, ce qui est clair, c'est que les esclavages, les souffrances, touchent, comme je vous le disais dès ma première phrase, touchent la subjectivité et pas seulement des réalités économiques, matérielles ou nationales ou politiques ou même linguistiques. C'est-à-dire essentiellement que nos droits comme êtres humains, comme êtres créateurs et libres, comme êtres communicateurs et informateurs, ces droits-là sont détruits pour une très grande partie de nous-mêmes. Et il y a, oui, retour aux empires. Si vous voulez, notre dépendance à l'égard de ceux qui nous dirigent, qui nous gouvernent, qui nous donnent des ordres et qui peuvent nous imposer des contraintes et des limites, ce contrôle est de plus en plus global et en même temps de plus en plus proche. La vis se resserre au lieu de se desserrer. Nous sommes poursuivis, j'allais presque dire, jusque dans notre inconscient. En tout cas, jusque dans notre conscience, ça oui.
Et avec tout ça, je n'aurais même pas eu votre définition du bonheur.
Non, parce que... Alors, je vais vous dire pourquoi... Non, mais je vais vous répondre, parce que j'ai une opinion très simple là-dessus. La définition, si je peux dire, technique du bonheur, c'est la correspondance entre ce que on s'attend à recevoir et ce qu'on reçoit. Et j'ai envie d'abord de vous donner la réponse que donnait un auteur que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin, qui est Bernanos, qui a fait un livre qui s'appelle « La joie », qui est le contraire du bonheur, c'est-à-dire le plaisir d'être poussé vers le mieux, vers la liberté, la création, ce qui suppose qu'il y aura aussi des difficultés, des arrêts, même des reculs, mais en tout cas que ça pousse vers l'avant, ça pousse vers le haut. Tandis que le bonheur, c'est l'immobilité protégée, ce qui est en effet parfaitement fondamentale lorsque vous êtes menacé et que vous êtes fragile. Fragile, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'argent, la terre est presque sèche, les ennemis peuvent venir vous brûler vos récoltes, etc. Bon, alors je comprends très bien ce que ça veut dire. Le bonheur est qu'on fasse des fêtes quand l'eau est tombée, quand il fallait, ou quand le riz ou le blé est en bonne quantité. Bon, aujourd'hui, on n'est pas dans un monde. Je dirais que les gens qui vous promettent le bonheur se foutent de vous. Ils se foutent de vous, parce qu'ils ne contrôlent pas toutes les variables d'inégalité, de changement, de crise. J'ai envie de dire un bon vieux mot, aussi vieux que le mot bonheur, et un mot qui me plaît davantage, même si le plus souvent il faut l'employer avec beaucoup de modestie, c'est du courage.
Merci Alain Touraine, vous publiez Nous, sujets humains. Merci d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie beaucoup.
Voilà pour cette conversation avec Alain Touraine, c'était en 2015.
Dans quel monde on vit ?
Sur la première.
Saison 10 de Dans quel monde on vit ? À cette occasion, nous jetons une oreille attentive sur nos belles archives et sur les messages envoyés par quelques-uns de nos invités. Écoutez.
Bonjour, c'est Lisette Lombé. Pour moi, Dans quel monde on vit, c'est un petit moment suspendu entre deux fureurs du monde. C'est un endroit où une pensée complexe et sensible peut se déployer dans le calme et avec une écoute bienveillante. 10 ans en âge radiophonique, c'est pas rien. Joyeux anniversaire donc à l'émission Dans quel monde on vit.
Bonjour, c'est Philippe Claudel. Et je voulais vous adresser ces quelques mots pour vous dire que cette fabuleuse émission « Dans quel monde on vit » me laisse toujours des souvenirs remarquables. J'ai l'impression d'avoir le temps d'échanger, le temps de dire, le temps d'expliquer, le temps de penser aussi à haute voix. Et c'est toujours intéressant de s'échapper de la rapidité anxiogène parfois de notre monde et de pouvoir se poser avec... des amis, des voix amies, et de pouvoir discuter sur ce qu'on fait, ce qu'on espère, ce dont on rêve, ce en quoi on croit. Voilà. Donc, excellent souvenir toujours de cette belle émission Dans quel monde on vit, et bien entendu, bon anniversaire et très, 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 très longue vie. À bientôt, les amis.
Bonjour, c'est Vanessa Springora. Quand j'ai participé à Dans quel monde on vit, j'ai dû enregistrer l'émission à distance, toute seule, face à un micro dans un studio parisien désert. J'étais franchement terrifiée, c'était glacial. Et puis en duplex, j'ai entendu la voix de Pascal Claude, son rire si chaleureux retentir dans mon casque. Et soudain, toutes mes peurs ont disparu. C'était comme si j'étais sur place avec les autres invités, avec Pascal. La magie de la radio, c'est ça aussi, cette voix humaine qui nous prend par la main et qui nous rappelle qu'on n'est jamais seul. Alors un grand merci à toute l'équipe et longue vie à Dans quel monde on vit.
Et d'ici à la fin juin, nous aurons d'autres occasions pour écouter les sympathiques messages de nos invités et nous immerger dans nos archives.
Dans quel monde on vit ? Faites ces 10 ans.
J'espère que vous avez aimé ce numéro de Dans quel monde on vit. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à nous offrir quelques bonnes étoiles. C'est précieux, ça permettra encore plus d'oreilles de nous écouter. Un grand merci et à très vite.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Audio.